Tout de suite, le grand débat avec Louis, avec vous, Simon Tatro.
Le grand débat de ce vendredi avec nos débatteurs. Ils seront trois, deux pour l'instant, deux plumes au profil bien différent. Priscilla de Selve, rédactrice en chef à l'hebdomadaire La Vie. Bonjour Priscilla.
Bonjour.
Steven Thompson, écrivain américain d'expression française. Bonjour.
Bonjour Simon.
Et d'ici quelques instants, nous rejoindra Jean Sévillia, journaliste au Figaro. Ça coince un petit peu sur la route. Alors pour ce grand débat, j'ai sélectionné un certain nombre de sujets. On verra si on peut tous les traiter, l'actualité étant toujours très riche. Le premier thème, c'est bien sûr l'examen du projet de loi sur la fin de vie. Lundi, les députés ont entamé l'examen des quelques 3000 amendements déposés à l'Assemblée. Alors on s'attend à des débats houleux, tant ce texte est sensible et nous touche au plus profond de notre être et de notre âme. Qu'est-ce que ça vous inspire, Priscilla ?
Je suis très, comment dire, ce texte, ce projet de loi m'effraie au plus haut point. En fait, c'est ça, je pense que le sentiment le plus profond que j'ai en moi, c'est ça, je suis vraiment effrayée par ce qui se passe. C'est-à-dire que j'ai eu l'occasion d'interviewer Catherine Vautrin, ministre de la Santé, ouais, qui porte ce projet de loi il y a quelques semaines, et elle, c'est une femme remarquable à bien des points, mais elle me disait, mordicus, vous savez, ce projet de loi est équilibré, moi, elle est catholique, et en tant que catholique, je n'ai aucun problème à porter ce projet de loi. Et à la question qu'on lui posait de façon très légitime, mais ça va passer en commission, ça va être détricoté comme tout projet de loi, quelles sont les garanties que vous nous offrez que ça reste en cet état d'équilibre ? Et elle disait, il n'y a aucun problème. Qu'est-ce qu'on a vu ? En quelques jours, à la commission spéciale de l'Assemblée, tout a explosé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce texte ne ressemblera en rien à ce que le gouvernement avait proposé. Il est un des textes les plus libertaires qu'on ait jamais proposé sur cette question de la fin de vie. Il a été élargi, enfin, toutes les digues ont sauté. Même des gens comme Agnès Firmin-Lebaudot, qui était celle qui portait le texte auparavant au gouvernement, le dit, Catherine Vautrin le dit, des digues ont sauté, des digues importantes sur l'accès à ce geste l'État, là, c'est un suicide assisté ou cette euthanasie, parce que c'est ce dont on parle hein, aujourd'hui. Ouais. Ça n'augure rien de bon sur les débats qui vont venir. Il y a trop de lobbies pro-euthanasie en France. Et ils vont, pour moi, c'est avoir introduit le loup dans la bergerie. On fait exploser un système. Emmanuel Macron parlait d'un texte qui était... c'était le modèle français, oui, de la fin de vie. Or, en fait, non, c'est faux. Il se trompe parce que le modèle français, c'était la loi Claeys-Leonetti. Ça a été la loi Kouchner, ça a été la loi Leonetti, ça a été la loi Claeys-Leonetti. Ça fait 25 ans qu'on discute sur la fin de vie en France. On a toujours su, jusque-là, aboutir à des textes équilibrés qui, certes, frustraient tout le monde, mais qui, du coup, en fait, satisfaisaient aussi un peu tout le monde. Et en fait, aujourd'hui, on fait tout exploser. On n'est plus dans le dialogue, on n'est plus dans l'équilibre, on n'est plus dans le au plus près. On franchit ce tabou qui devrait être, comme tout tabou, absolument intangible. On donne la mort. Tu ne tueras point. Je cite le Décalogue, mais ouais. La République le porte aussi. Hein, on ne tue pas. Tuer, c'est... C'est un crime. Et aujourd'hui, on va instituer ce geste qui dépasse l'entendement au sein de la République. Pardon, hein, je monopise un peu la parole.
Parce que la parole à Steven. Oui,
parce que c'est quelque chose qui me vraiment...
Ça vous tient à cœur. Ouais.
Non, mais ça me bouleverse. C'est ouais, que ouais. J'invite tous ceux qui nous écoutent à lire, s'ils doivent lire trois textes que je trouve extrêmement bien faits et qui mettent bien en place les problématiques de cette question sur la fin de vie. C'est le texte de l'archevêque de Paris, Laurent Ulrich, oui, qui a évoqué ça, qui de façon très mesurée, qui évoque bien toutes les problématiques que pose ce texte. Le discours remarquable de Pierre Dharréville, qui est député communiste à l'Assemblée et qui a fait un discours en ouverture des débats le 27 mai sur la question de la fin de vie. Il est communiste. Alors, il est catholique, mais il est communiste. Donc, il ne porte pas exactement la même vision de la fin de vie que Laurent Ulrich. Et le communiqué qui a été publié comme une tribune dans le Figaro de je ne sais pas combien d'associations de soignants dont la SFAP, mais pas que, qui disait qu'en tant que soignant, combien ce texte faisait exploser ce en quoi il croit. Et surtout, il était très éloigné des réalités que les soignants vivent au quotidien avec des malades en fin de vie qui ne demandent pas la plupart du temps la mort quand on peut soulager leur souffrance.
On salue Jean Sévillia qui vient de nous rejoindre pour ce grand débat, journaliste au Figaro. Bonjour Jean Sévillia.
Bonjour.
Je laisse écouter Sion Sompson par rapport à cet examen du projet de loi sur la fin de vie.
Oui, je suis d'accord avec tout ce que Priscilla vient de dire. Je suis choqué par cette loi, pas surpris, parce que je trouve que depuis le début, le Macronie, il y avait quelque chose d'ambigu, il parlait en même temps. Et en fait, le parti gauche, entre guillemets, de la Macronie, c'était les questions sociétales, comme le PMA ou les questions de mariage ou les questions de fin de vie, où soi-disant c'est de gauche, et sinon sur les questions d'économie, c'était vraiment une politique de droite. Mais pour moi, cette loi sur l'euthanasie, c'est faussement gauchiste, parce qu'en fait, ça va de pair avec le libéralisme. Il y a une vision désacralisée de la vie, une vision capitaliste de la vie. Moi, je ne vois pas la nécessité de cette loi. Pourquoi ça intervient maintenant? Qu'est-ce qui a changé? Le système ancien, ça fonctionnait si mal. Les vieux, ils pesaient tellement pour leurs proches. Je ne comprends pas. Même le mot euthanasie, me semble, c'est un euphémisme, pour reprendre un autre mot avec un préfixe en EU. C'est un euphémisme. Vraiment, c'est suicide. On parle de suicide. Alors, pourquoi pas utiliser le mot suicide? Pourquoi pas? Parce que ça fait très violent. Mais la loi est très violente. Et d'après ce que j'ai lu, avec les amendements à la Commission, c'est encore plus radical, cette loi, qu'est la loi en Belgique, à Bruxelles, alors que, normalement, c'est progressif, l'instauration de cette loi en Belgique.
Jean Sévillia, par rapport à cet examen de projet de loi.
Écoutez, moi je pense que Emmanuel Macron est dans la logique de ce qu'il est. D'abord, il avait annoncé en effet qu'il voulait un équilibre. Il n'y a pas d'équilibre, mais ça ne m'étonne pas du tout. Cette loi est à l'image de son en même temps. On sait qu'il pratique une sorte de libéralisme progressiste ou de progressisme libéral. Enfin, voilà, il mêle les deux. C'est assez terrifiant. Oui, c'est terrifiant. Voilà. Il y a une rupture anthropologique majeure qui est en train de s'effectuer. Maintenant, moi, je vais être assez pessimiste. Enfin, pardon, si on regarde les choses un peu de haut, je crois qu'il faut qu'on se prépare, nous, chrétiens, à multiples de ruptures. On les a eues déjà, d'ailleurs, on les a eues avec le mariage, on les a avec la question du genre, etc., etc. C'est que nous sommes, culturellement, nous, catholiques de France, on est habitués à être dans un pays façonné par le christianisme, et ça nous paraissait évident que même les valeurs, je dirais, de la société civile soient quelque part en harmonie avec la culture chrétienne, parce qu'il y avait 2000 ans de christianisme. On est dans une rupture majeure, c'est-à-dire que il y a une sorte de... La vieille population française est en train d'abandonner le christianisme. Hein, je veux dire, on passe à... Les sans-religions sont en train de devenir majoritaires en France, voilà. Et donc, là où il y avait un accord, je dirais, entre la vieille morale chrétienne et la morale civique, même républicaine, etc., cet accord est en train de se défaire, parce qu'on n'est plus sur le même fondement anthropologique. Oui. Et donc, maintenant, c'est le règne de l'argent, c'est le règne des lobbies, et donc on va aller de plus en plus de, je pense que la question de la GPA va revenir et je pense qu'on parle, nous chrétiens, il y a encore des gens, alors il y a des communistes.
Oui, mais moi je pense que ce débat va bien au-delà, et heureusement d'ailleurs, bien au-delà du cercle chrétien, parce que en fait c'est pas une vision chrétienne de l'homme et de la fin de vie dont on parle là, c'est une vision humaine, c'est une vision de au lieu de dire que vaut ta vie et est-ce que tu veux qu'on t'aide à partir ? Ce que disent des associations de médecins qui n'ont rien à voir avec la religion catholique, hein, qui disent, nous, en fait, on veut l'accompagnement jusqu'au bout. On veut aider à soulager la souffrance jusqu'au bout. Et surtout, et ce que rappellent très justement tous ceux qui sont impliqués, et encore aux premières loges, qu'on écoute très peu, qu'on a très peu entendu. Claire Fourcade, la présidente de la SFAP, me rappelait que depuis l'arrivée de Catherine Vautrin au ministère de la Santé, elle l'avait jamais vue. Alors que c'était quand même des intervenants majeurs dans dans ce discours. Il y a un nombre incroyable de ministres de la Santé qui se sont suicidés depuis plusieurs mois et qui rendent ce dialogue un peu délicat. Ça va bien au-delà des catholiques, cette question-là. Ça va bien au-delà... ça va de la façon dont on accompagne des gens qui sont plongés dans cette épreuve et leur famille jusqu'à la mort, en mettant tout en place pour qu'ils ne souffrent pas et qu'ils puissent profiter de leurs proches et de ces jours qui s'additionnent aux jours jusqu'au bout. On ne peut pas répondre à la souffrance par « eh ben, écoute, on va t'aider à partir ». Enfin, c'est quoi cette réponse, quoi ?
Alors, au deuxième jour de l'examen, le mardi 28 mai, l'Assemblée nationale a intégré la dimension spirituelle à la définition des soins d'accompagnement. Ceux-ci doivent répondre aux besoins physiques, psychologiques, sociaux, mais aussi spirituels des patients, ont estimé les députés. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Non, mais c'est de l'enfumage. Déjà, mettons en place les plans successifs de soins palliatifs qui ont été élaborés par les députés et auxquels on n'a jamais donné les moyens de se mettre en place. On rappelle quand même un fait, aujourd'hui, un Français sur deux n'a pas accès à des soins palliatifs, il y a 21 départements qui n'ont pas d'unité de soins palliatifs en France, aujourd'hui. Commençons par aller jusqu'au bout des lois qu'on vote et donnons les moyens financiers des lois qu'on vote avant de commencer à aller au-delà. On marche sur la tête, et on va parler chômage dans quelques minutes. Oui. C'est exactement la même chose. Il n'y a aucune étude d'impact sur les lois successives. On n'attend pas qu'elles prennent tous leurs effets, mais on passe à la suivante, on restreint un peu plus, on serre un peu plus. Déjà, commençons à donner aux soins palliatifs l'espace, les finances auxquelles ils ont droit. Et les députés ont voté, notamment en commission, une loi de programmation, comme il existe notamment pour l'armée. Le gouvernement s'y est opposé. Évidemment, ça le contraint à donner des moyens aux unités de soins palliatifs. Ben, commençons par ça, déjà.
Jean-Sévillien.
C'est purement cosmétique, hein, l'histoire de précise bien que le spirituel ne se confond pas avec le religieux, surtout pas, attention, voilà, donc non, c'est de l'enfumage, absolument, voilà. Mais je voudrais revenir, pardonnez-moi, vous m'avez contredit, mais je ne suis pas d'accord avec vous, je veux dire, bien évidemment, on est d'accord sur le fait que cette loi dépasse les chrétiens, mais ce que je dis, c'est que les non-chrétiens, en réalité, en France, fonctionnent depuis des décennies, même des siècles, sur une anthropologie qui est chrétienne, en réalité, ils ne le savent pas. Voilà.
Oui, bien sûr, voilà. On est entièrement d'accord.
C'est ça que je veux dire. Évidemment que c'est pas une question qui concerne toute l'humanité,
oui,
mais parce qu'en réalité nous sommes redevables d'une culture qui a été façonnée par le christianisme, une idée de l'homme, une certaine idée de la dignité de l'homme en tant que créature créée à l'image de Dieu, enfin pour nous, mais cette image là voilà, elle a façonné notre civilisation et est en train de basculer dans une autre civilisation qui est celle de l'argent, du moi-je, c'est-à-dire je définis moi-même mon destin, etc. Et donc c'est un basculement majeur.
Moi je voulais apporter, oui, je suis d'accord avec vous deux, et j'ai apporté une note américaine. J'ai toujours été interpellé par la présence de ce mot laïcité en France, qui n'est pas un mot dans le discours politique américain, et que c'est un peu ambigu. En principe, je pense qu'on est tous d'accord, mais pour moi, souvent, je sens une sorte d'agressivité dans cette notion de laïcité. Je pense que la nature aborde le vide, et le problème n'est même pas qu'il y a une désacralisation en France. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a une sorte d'agressivité envers la tradition chrétienne, la tradition judéo-chrétienne d'ailleurs. Pourquoi pas juste être tolérant de ça? Je vois ça même dans les non-catholiques interviennent dans l'idée de la célibat des prêtres, c'est pas leur problème. Mais il y a une sorte de zéro tolérance du christianisme en France ou de la tradition judéo-chrétienne parce qu'on perçoit ça comme une sorte de menace pour l'idéologie progressiste, c'est comme ça que je vois cette loi.
Oui, ça fait partie de la dualité française. Nous sommes à la fois une vieille nation de tradition chrétienne, et où il y a une vieille tradition anti-chrétienne aussi, qui nous date de la Révolution française. Enfin, je veux dire, il y a les deux font partie de l'identité française. Ça fait partie des contradictions de la France.
Quelqu'un souhaitait encore intervenir sur ce sujet où on passe au deuxième thème, peut-être la guerre au Proche-Orient, le conflit s'enlise, des frappes israéliennes sur la bande de Gaza. Est-ce qu'on en verra un jour une issue à ce conflit qui a l'air bien compliqué quand même? Jean-Sévillien.
Bah écoutez, c'est une histoire épouvantable parce que on ne voit pas d'issue politique, alors qu'en réalité la seule issue serait politique, parce que sur le plan militaire ça peut durer comme ça des décennies, d'ailleurs ça dure depuis des décennies. Simplement, Moi, je trouve qu'on ne peut pas mettre les deux adversaires sur le même plan. Il y a, d'un côté, il y a un État démocratique et Israël qui a vécu une agression au mois d'octobre qui était une véritable agression. Et on a le Hamas qui a pris en otage la bande de Gaza. Le Hamas qui est un mouvement terroriste, reconnu comme terroriste par les institutions internationales, qui mène une guerre et qui lui, ça, from the river to the sea, son projet, c'est de détruire Israël. Donc les deux adversaires de cette guerre n'en sont pas non plus sur le même plan. S'il y avait un cessez-le-feu, Israël est menacé militairement, dans son être même. Moi, je souhaiterais qu'il y ait un cessez-le-feu, mais s'il y a à condition qu'il y ait une solution politique derrière, évidemment. Mais je veux dire, on peut pas mettre les deux sur le même plan. Je veux dire, et le cessez-le-feu, mais si le Hamas ne rend pas les otages, on est toujours sur le même plan. Donc cette histoire est sans issue. Voilà. Alors, c'est évident aussi que l'actuel Premier ministre d'Israël ne facilite pas les choses. Hein. Je veux dire, il a enfermé il y a au sein du gouvernement israélien des jusqu'au boutistes qui n'entendent pas raison, qui sont bellicistes à tout craint. Et du côté, malheureusement, du côté palestinien, il n'y a pas d'autres interlocuteurs. Enfin, le Hamas a pris le pouvoir à Gaza, maintient toute tête émergente au sein du monde palestinien a été, je dirais, éliminée par les radicaux. Donc, malheureusement, je ne sais pas comment on va en sortir. Je suis assez pessimiste sur cette situation.
Christiane de Sel.
Ce qui se passe en Israël-Palestine, c'est un jeu d'échecs. C'est-à-dire que il y a aujourd'hui sur ce jeu d'échecs des adversaires qui sont Benjamin Netanyahou, le premier ministre israélien, qui a été élu par les Israéliens, en cela il est légitime, mais qui a un agenda très personnel, puisqu'on sait qu'il est poursuivi par la justice, que si jamais il venait à quitter le gouvernement, il pourrait être condamné, incarcéré. Il y a Sinwar, qui est le chef politique du Hamas, il y a les alliés du Hamas, et il y a le peuple palestinien, il y a aussi la société civile israélienne sur laquelle il faut compter, c'est peut-être... d'elle viendra une partie de la solution. Et puis, il y a aussi les Américains, Joe Biden. En fait, on assiste à une conjonction assez historique qui fait que Joe Biden, les Américains ont de tout temps été des alliés des Israéliens, ils leur fournissent des armes, ils leur fournissent de l'argent. Sans l'appui américain, Israël ne peut pas fonctionner. C'est une société où il y a un taux de chômage qui est assez élevé, où l'économie n'est pas non plus en pleine forme. Ce qui se passe aujourd'hui n'améliore pas la donne. Israël est profondément lié aux États-Unis. Les États-Unis sont profondément liés à Israël. Et ce qui est étonnant, c'est qu'aujourd'hui, le discours de Joe Biden, démocrate, est quasiment équivalent à celui de Donald Trump, ancien président américain républicain. Qui est ce soutien quasiment inconditionnel à Israël. Et c'est absolument... Moi, j'étais persuadée, au début de cette guerre, que Joe Biden, avant Noël, allait siffler le cessez-le-feu, ouais, en disant « Arrêtez, voilà, on arrête, parce que c'est bientôt Noël, Joe Biden est catholique, hein, je ne dis pas de bêtises, et on va arrêter avant Noël, il va y avoir une trêve ». Et il va forcer Netanyahou. Ils se connaissent très bien. Hein. Netanyahou est un homme politique. Ça fait une vingtaine d'années qu'il est au pouvoir. Il connaît extrêmement il connaît très bien les États-Unis. Il y a vécu. Il connaît très bien Joe Biden, quand il était vice-président, l'a rencontré à de nombreuses reprises. Et j'étais persuadée qu'il allait prendre son téléphone et qu'il allait dire au Premier ministre israélien, on arrête. Un cessez-le-feu humanitaire, permettre aux gens de pouvoir se soigner. Et en fait, on se rend compte, et c'est ça qui, moi, m'effraie le plus, je crois, aujourd'hui, c'est que Joe Biden n'a aucun pouvoir, aucun moyen de pression sur Benjamin Netanyahou, qui se fout de savoir ce qui se passe exactement sur le terrain. Aujourd'hui, on entend des militaires israéliens, c'est de ça, c'est Yoav Gallant, c'est le ministre de la Défense, qui dit qu'on ne peut pas mener une guerre sans savoir ce qu'on fait après. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les militaires israéliens, ils disent, parce qu'ils sont sur le terrain, ils disent, il faut penser à l'après. Qu'est-ce qu'on va faire après, quand on aura nettoyé ce qui aujourd'hui, enfin, en partie le Hamas, puisqu'on ne peut pas tuer dans l'œuf. On ne pourra jamais tuer dans l'œuf hein, une entreprise terroriste. Elle traite ses cendres comme elles sont toutes renaît de leurs cendres. Et les militaires israéliens, ils disent, mais c'est n'importe quoi ce qu'on fait, en fait. Là, on est en train, on a quitté le nord pour le sud de la bande de Gaza. Maintenant, il faut qu'on revienne au nord pour l'occuper parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a de nouveau des militants du Hamas qui sont là-haut et qui se réorganisent. Donc, en fait, c'est une guerre sans fin. Je reste quasiment sans voix, c'est que aussi bien Netanyahou, mais aussi bien que Sinwar, donc le chef politique du Hamas, se fout de savoir ce que leur population souffre et vive sur le terrain. En fait, ces femmes, ces enfants, ces hommes qui meurent chaque jour aujourd'hui à Gaza n'intéressent personne et surtout pas leurs dirigeants. Et ça, pour moi, c'est pas un système qui peut fonctionner. Quel pouvoir politique ne peut pas se préoccuper de savoir ce que deviendra ces populations? On fonctionne sur la tête. Moi, ça me...
Oui, je suis d'accord sur plein de choses là, mais je n'irai pas jusqu'à mettre Netanyahou et Sinwar dans le même panier. C'est vrai que je ne pense pas que Netanyahou, par exemple, utilise sa population comme des boucliers. C'est quand même Hamas qui a entamé cette guerre en sachant qu'il y aurait des milliers de morts. Ce n'est pas Netanyahou qui a enclenché la guerre. Après,
mais il pourrait demander un cessez-le-feu de façon beaucoup plus effective. Il pourrait négocier ça avec le Hamas.
Oui, mais pour donner quoi, comme disait Jean Sivédia, pour faire quoi après? Le cessez-le-feu, c'est ça, c'est juste... Moi, je ne vois pas de solution, je suis très pessimiste. Si moi, j'avais été Premier ministre, peut-être j'aurais rien fait, j'aurais juste dit, bon... Bah, comme ça, Israël, au moins, ils auraient gardé la position de victime, qui est une position traditionnellement juive, mais quand tu es leader d'un pays et tu es attaqué, est-ce que tu peux faire ça? Je ne sais pas. Mais si un cessez-le-feu demain, qu'est-ce qui se passe après, d'après vous? Et puis, juste une autre chose, ce n'est pas vrai que... Les Américains ne conçoivent pas l'après-hostilité, parce que c'est Blinken aussi. Peut-être, en effet, c'est suite à la proposition de Tsahal.
Blinken a
dit qu'il faut réfléchir sur l'après.
Les Américains poussent Netanyahou à penser à l'après. Ils lui disent, en l'occurrence, oui, effectivement, ils sont actifs. Et Tsahal aussi, le ministre de la Défense Galant, ils poussent tous Netanyahou à penser à l'après. Mais l'agenda du Premier ministre israélien aujourd'hui est très personnel. Il n'obéit pas nécessairement à toutes ces...
C'est quand même un pays qui a été attaqué. Et l'attaque, comme disait, je suis pas normalement un fan de BHL, mais j'étais très ému par son livre « Solitude d'Israël », où il parle du 7 octobre comme un événement, d'après la définition de ce philosophe allemand, Schumann, je crois. Et il explique que c'est vraiment un bouleversement le 7 octobre, comme c'était le 11 septembre. Et alors, comment réagir par rapport à ça? C'est où tu vois, dans ton pays, les femmes, les enfants démembrés, brûlés, des viols à plusieurs. Comment réagir à ça en ne faisant rien? Je ne sais pas.
Bien sûr. En fait, tout pays a
le
droit de...
Et puis la loi morale des otages, enfin, je veux dire, qui joue beaucoup sur la société israélienne, de toute façon.
Mais Netanyahou n'y répond pas, puisque...
Oui, mais on est d'accord. Mais
en fait, tout pays attaqué a le droit de se défendre. Mais la façon dont aujourd'hui on gère la guerre sur le terrain me semble absolument absurde.
On va marquer une pause dans ce grand débat. Priscilla de Selve, Steven Sanson, Jean Sevilla. On se retrouve dans quelques instants, juste après les infos de 8h qui arrivent. Ça sera avec Hugo Caro. Merci d'être avec nous à l'écoute de Radio Notre-Dame.
Le 9 juin, les citoyens français sont appelés aux urnes pour les élections européennes. Les enjeux n'ont jamais été aussi cruciaux avec cette période de grande incertitude liée notamment à la guerre en Ukraine. Comment l'Europe a-t-elle évolué ces 5 dernières années? Quelles stratégies pourront être adoptées en fonction des résultats? Comment les partis français se préparent déjà pour la présidentielle 2027? Les journalistes experts de La Croix et La Croix L'Hebdo répondent à ces questions, et bien plus encore, dans notre grand dossier La Croix, le nouvel âge de l'Europe, en vente chez votre marchand de journaux jusqu'au 10 juin.
Parce que voyager, ce n'est pas seulement visiter, Odeia vous propose un circuit d'exception en Roumanie. On l'appelle la terre aux 2000 monastères. Ces églises en bois uniques au monde témoignent de la ferveur de ces paysans. Ces traditions religieuses vivaces révèlent un héritage unique. Avec l'agence de voyage Odeia, la Roumanie vous dévoile son âme, authentique et inattendue. La Roumanie, c'est en septembre prochain avec le père J.K. Paulet et l'agence Odeia, odeia.fr. Odeia, les voyages qui ont une âme.
Bonjour, je suis Xavier Acca, rédacteur en chef du mensuel Prier. Chaque semaine, je vous donne rendez-vous à l'École de la prière pour approfondir l'art de la prière.
À l'École de la prière, avec Xavier Acca et le mensuel Prier, tous les dimanches à 7h30.
Vendredi 31 mai, la matinée se poursuit à l'écoute de Radio Notre-Dame. Dans quelques instants, la suite de notre grand débat du vendredi. Aujourd'hui, nos débatteurs Priscilla de Selve, rédactrice en chef à l'hebdomadaire La Vie, Stephen Simpson, écrivain américain d'expression française, et Jean Sévillia, journaliste au Figaro. On parlera notamment de la réforme de l'assurance chômage, et également de Notre-Dame qui retrouvait le week-end dernier sa croix de chevet. Voilà, ça sera un petit peu les thèmes que nous aborderons lors de la deuxième partie de ce grand débat sur Radio Notre-Dame. Mais dans l'immédiat, il est tout juste 8h. On fait sans plus tarder un point complet sur l'actualité du jour. C'est avec Hugo Caro.
Dans l'actualité nucléaire, Emmanuel Macron annonce la reprise officielle des activités de General Electric par EDF. À compter d'aujourd'hui, EDF reprendra officiellement les activités nucléaires de General Electric, dont la maintenance et la fabrication des turbines Arabelle, la concrétisation d'une promesse formulée en 2022. Nouvelle-Calédonie, la réouverture de l'aéroport de Nouméa, une nouvelle fois repoussée. Le Haut-Commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie annonce, je cite, une prolongation de la fermeture de l'aéroport de Nouméa jusqu'au lundi 3 juin. Les forces de l'ordre sont chargées depuis des jours de déblayer l'axe stratégique reliant Nouméa à l'aéroport en retirant débris et carcasses de véhicules calcinés, laissés par les violences sur une chaussée très dégradée par endroits. Plus de 1600 touristes français et étrangers ont été évacués par les autorités depuis l'aérodrome de Magenta via des vols militaires affrétés notamment par la France, l'Australie ou encore la Nouvelle-Zélande. Guerre en Ukraine, au moins 3 morts et 16 blessés dans des frappes russes à Kharkiv. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui le gouverneur régional Oleg Singobov. 16 autres ont été blessés selon un premier bilan. L'ennemi a de nouveau eu recours à une double frappe alors que les médecins, les secouristes et les forces de l'ordre étaient déjà sur place. C'est ce qu'a déclaré le gouverneur précisant que les frappes avaient, je cite, visé exclusivement les infrastructures civiles. Et puis le patron de l'OTAN favorable à l'idée d'autoriser l'Ukraine à frapper la Russie. Les pays alliés de l'Ukraine doivent désormais laisser Kiev frapper le territoire russe avec les armes qu'ils lui fournissent. C'est ce qu'a déclaré hier à Prague le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, peu avant le début d'une réunion ministérielle de l'Alliance Atlantique en République tchèque. Les ministres des Affaires étrangères de l'OTAN sont réunis hier et encore aujourd'hui à Prague, en Europe centrale, au sommet des préoccupations, la situation militaire qui se dégrade en Ukraine et les demandes pressantes d'armement formulées encore et toujours par Volodymyr Zelensky. Direction les États-Unis où Donald Trump déclaré coupable. Son avocat annonce qu'il fera appel dès que possible. Quelques heures après l'annonce du verdict par un jury populaire à New York dans l'affaire Stormy Daniels, la peine de l'ancien président américain sera connue, elle, le jeudi 11 juillet. Le juge Juan Merchan a donné à la défense jusqu'au 13 juin pour présenter ses arguments en vue du prononcé de la peine et jusqu'au 27 juin à l'accusation pour y répondre. Enfin, le pape incite les catholiques allemands à partager la paix du Christ à l'occasion des 103e journée des catholiques allemands. Le pape François a envoyé un message autour du thème de cette édition, l'homme de paix a de l'avenir, rappelant que les crises morales, sociales, économiques et politiques sont toutes liées. Le Saint-Père a demandé la coopération de toutes les personnes de bonne volonté qui veulent construire un avenir pacifique. Des dizaines de milliers de catholiques allemands sont réunis jusqu'au 2 juin pour participer à cette 103e édition. Mais le pape a remarqué que de nombreuses personnes venues de milieux culturels et idéologiques différents perçoivent que quelque chose ne va pas. Il y a, je cite, un besoin de conversion, d'une véritable réorientation.
Bonjour, c'est Étienne Tarnot. Je vous invite à un conte musical sur Toby et Sarah, le vendredi 7 juin 2024 à 19h30 à l'espace Saint-Sulpice, 8 bis rue Jean Bar, Paris 6e, métro Saint-Placide, Saint-Sulpice ou Rennes. Informations au 06 82 59 70 03, 06 82 59 70 03.
Ah, je me sens mieux. Au calme, au chaud. Et puis j'ai vu la différence sur ma facture d'énergie.
Pour moi, c'est le jour et la nuit. J'ai eu l'impression de changer de maison.
Vous avez envie de changer de vie ? Commencez par changer de fenêtre. Depuis 25 ans, la Maison de la Fenêtre vous change la vie en vous apportant plus de confort, plus de lumière et de vraies économies d'énergie.
La pose s'est faite en une journée. Hyper pro !
La Maison de la Fenêtre, certifiée Calibat RGE, 01 42 11 03 03, 01 42 11 03 03.
À l'approche du week-end, apprendre à bien s'occuper de son jardin par des méthodes qui prennent soin de la planète et de ses jardiniers, c'est ce que vous propose Melchior Gormand. Prenez-en de la graine, une émission de RCF, en codiffusion avec Radio Notre-Dame, tous les vendredis à 10h.
Le Grand Débat.
Le Grand Débat.
Simon Tatro.
Allez, la suite de ce grand débat avec nos trois débatteurs, nos trois plumes. Priscilla de Selve, rédactrice en chef à l'hebdomadaire La Vie, Steven Sampson, écrivain américain d'expression française, et Jean Sevilla, journaliste au Figaro. C'était dans l'air du temps depuis quelques semaines, et le week-end dernier, dans une tribune, le Premier ministre Gabriel Attal a dévoilé les contours de la réforme de l'assurance chômage. Réduction à 15 mois de la durée d'indemnisation. Il faudra aussi avoir travaillé plus longtemps avant de prétendre à une indemnisation. Alors tout ça pour des économies estimées à 3,6 milliards, créer 90 000 emplois. Qu'en pensez-vous les uns les autres ? Tiens, Steven Sampson pour commencer.
Mais qu'est-ce que représente 3,6 milliards par rapport au déficit actuel, on a l'impression que c'est des petites mesures. J'ai lu ce matin que Standard & Poor's va décider aujourd'hui à la clôture des marchés si on va dégrader encore la note de la France, si le fonds, ça va coûter encore plus à la France pour leurs emprunts qui va encore augmenter les déficits. Et déjà, on a l'impression que la France bénéficie d'un régime favorable parce que par rapport à d'autres pays qui sont, je pense que c'est double A ou A, la notation de la France.
C'est A+, je
crois. Et c'est, la France est nettement inférieure. C'est plutôt au niveau de l'Espagne, les déficits en France, alors que l'Espagne a une notation inférieure. Donc, on a une situation grave et c'est pas vraiment le... On parle d'autre chose, comme l'euthanasie, par exemple, ou comme l'Ukraine, ou cette réforme que j'ai l'impression que les économies sont plutôt... Mina, peut-être le terme est trop fort, mais Mina, pour le déficit, on est à 113-112% du PIB. L'Irlande, c'est à 44%. Même l'Espagne, c'est à 108%. Donc, qu'est-ce que ça représente, 3,6 millions
Jean-Sévilla.
Alors, moi, je ne suis pas technicien de ce genre de mesures. Alors, sur le plan technique, j'aurais du mal à me prononcer. Je suis bien d'accord, évidemment, que ce sont des... À chaque fois, on va gagner quelques milliards qui sont un saupoudrage par rapport à l'ampleur du déficit dans lequel on est, d'autant que, par ailleurs, on délivre des chèques en permanence, enfin, le gouvernement, enfin, surtout à l'approche des élections, voilà. Bon... Globalement, moi, mon approche, c'est quand même qu'il y a eu un recul dans la société française. Je pense que c'était un effet néfaste des 35 heures de la valeur travail. C'est-à-dire que les gens sont un peu habitués. Alors, c'est pas un discours libéral, parce que je suis pas libéral en économie, mais c'est un discours d'État, un discours de raison. Je veux dire, la vieille sagesse des siècles apprenait que le travail est une valeur fondamentale et que les richesses, les biens ne nous tombent pas tous du ciel, c'est il faut y mettre de la sueur et de l'huile de coude, voilà. Et donc on était depuis 30 ans 40 ans, moi quand j'avais 20 ou 30 ans, les gens qui étaient au chômage, il y avait un moment où ils étaient quasiment indemnisés avec la totalité de leur salaire, si vous voulez. D'accord, on avait un résultat où les gens gagnaient autant d'argent à ne rien faire qu'à travailler, voilà. Donc il y a eu globalement depuis 30 ans, et c'était accéléré à mon avis par les 35 heures, un recul de l'idée que il n'y a pas de mystère. Enfin, une nation qui se porte bien économiquement, c'est qu'elle doit travailler. Et si la production a reculé en France, il y a tout un tas de raisons plus complexes, je suis d'accord. Mais c'est aussi parce que les gens sont habitués à l'idée... on a tous des vacances. Si on va dans n'importe quel autre pays, en Europe ou aux États-Unis, enfin, le nombre de jours où les Français ne travaillent pas par rapport au nombre de jours où les autres peuples travaillent est quand même sidérant. Alors, on me dira le rapport entre le travail et la production... Enfin,
La productivité française est une des plus hautes.
Oui, voilà. Maintenant, il n'y a pas que ça. Je pense qu'il y a une question psychologique. Voilà. Nous sommes devenus une société de loisirs. Je veux dire, on a abandonné notre industrie, on a abandonné... Enfin, donc, il y a une part psychologique. Donc, personnellement, ce à quoi je suis sensible, c'est tout ce qui va dans le sens de la revalorisation de la notion de travail. C'est en travaillant qu'on s'enrichit. Voilà. On produit de la richesse en s'enrichissant. Voilà. On crée de la richesse, pardon, en travaillant. Et le travail, il profite à tout le monde. Voilà. Parce que la richesse, elle profite à tout le monde. Non pas au sens classique de l'argent. Enfin, c'est pas parce que les riches deviennent plus riches que les pauvres en profitent. Quand même, si, il y a une sorte de... Voilà, il y a une sorte de régression qui est liée à cela, à mon sens. Voilà. Donc, pour ce que j'en sais de cette mesure, elle va un peu dans ce sens-là. Maintenant, ça va pas résoudre globalement le sens le problème de la société française.
Priscilla Dessal, vous n'avez pas encore entendu.
Alors, le travail est une valeur, mais nous ne sommes pas tous égaux devant le travail et surtout devant l'accès au travail. C'est-à-dire que, il est bien évident que quand vous êtes sans diplôme, il est bien plus compliqué d'accéder à un emploi salarié que quand vous êtes diplômé. Et on sait bien qu'en France, comme partout ailleurs, on est avec des chances qui ne sont pas équivalentes. Donc, le job d'un gouvernement, c'est d'essayer d'aplanir ces iniquités pour que tous puissent accéder à une éducation, à une formation qui lui puisse permettre d'accéder au travail. Moi, au-delà du fait que le travail est important et que tous doivent pouvoir y accéder, ce qui me frappe dans ces nouvelles mesures qui est là, j'ai essayé de compter parce qu'en fait, j'arrive pas à savoir si c'est la troisième, la quatrième, la cinquième depuis 2017. Donc ça fait plusieurs fois que le gouvernement remet sur son ouvrage, sur le plan de travail, on va dire ça comme ça. Et ce qui me frappe en fait, c'est que aucune des lois, aucune des mesures qui ont été mises en place depuis 2017 n'a été évaluée. On n'a jamais pris le temps d'évaluer chacune des mesures qui ont été mises en place par les divers Premier ministre d'Emmanuel Macron, c'est encore pas. Enfin, ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure sur la question des soins palliatifs, c'est-à-dire que on met en place une loi, on lui donne plus ou moins les moyens financiers, et puis, mais on attend et au bout de cet temps, on se dit, oh, ça fonctionne pas, donc tout de suite on va remettre un coup, on va resserrer les boulons. En fait, on n'attend pas que les lois prennent leurs effets. Et ça, c'est frappant pour la loi sur l'assurance chômage. Il y a eu juste un rapport d'étape qui a été publié en février dernier. Le comité d'évaluation de la réforme de 2019 a sorti un rapport où il disait que les mesures de durcissement qui avaient été mises en place par le gouvernement avaient entraîné une baisse significative du nombre d'ouvertures des droits. C'est-à-dire que moins de personnes ont pu avoir accès au chômage. Qui a été impacté ? Pas les jeunes et les précaires. Je suis pas sûre qu'un gouvernement, qu'un pays comme la France s'enorgueillit de mettre à mal des populations déjà fragiles que sont les jeunes, parce qu'ils n'ont pas eu, voilà, ils n'ont pas d'expérience professionnelle, donc c'est plus compliqué de rentrer sur le marché de l'emploi, et les précaires, parce qu'on est là aussi, parce que nous sommes une démocratie, nous sommes une démocratie sociale, nous sommes une démocratie profondément travaillée par les valeurs chrétiennes notamment, même si aujourd'hui on s'en souvient plus, mais on a une attention, on devrait avoir une attention particulière à ces précaires. Et aujourd'hui, ce que préconise Gabriel Attal, qui rentrera en juillet, je crois que le décret, c'est le 1er juillet, pour une mise en place en...
Le 1er décembre.
Le décret, c'est 1er juillet pour une mise en place en décembre. Ça, déjà, moi, ce qui frappe, c'est que en France, l'assurance chômage est gérée de façon paritaire, c'est-à-dire entre patronat et syndicats. Et bien là, le gouvernement a pris la main et on n'entend plus les syndicats discuter. On les a entendus quand Gabriel Attal, au début d'année, a commencé à dire « Oui, on va durcir à nouveau », parce qu'on avait déjà diminué la durée d'indemnisation à 18 mois. Maintenant, c'est 15 mois. Il y a une mesure qui me touche particulièrement, c'est que jusque-là, ces mesures ne s'appliquaient pas aux chômeurs de plus de 53 ans, puisqu'on rentrait dans la catégorie dite des seniors. Il se trouve que c'est mon âge, donc moi, je me sens senior d'un coup. Et là, on va élever encore cette barrière. C'est-à-dire que les gens qui auront 54 ou 50 ans, je ne sais pas exactement l'âge, ne seront pas indemnisés sur la même durée, la même longueur. Or, on sait très bien que retrouver un emploi à 53, 54, 54, 55 ans, c'est particulièrement compliqué. Que l'emploi des seniors en France, si il a fait des progrès, si on a réussi à remettre plus de gens un peu âgés, je me mets dans le lot, au travail, c'est pas encore gagné. Où est-ce qu'on va en mettant à nouveau en difficulté ces populations qu'on sait fragiles
Écoutez, oui, enfin, moi, je ne suis pas entièrement d'accord sur, moi, sur un point, c'est que vous dites que les métiers les plus, enfin, les gens moins formés ont plus de mal à trouver du travail, mais encore faut-il qu'ils veuillent trouver du travail. Enfin, je suis quand même très frappé, si on discute avec des artisans, enfin, si on a un peu un pied à la campagne, ce qui est mon cas, si vous, je veux dire, ils cherchent à recruter des jeunes, je veux dire, mais on leur présente un plan comme quoi il faut travailler à partir de, souvent c'est à partir de 7h du matin, ne pas compter son temps, éventuellement bosser le week-end, et personne n'a envie. Vous parlez avec des cadres, les premières questions que posent les jeunes, c'est j'aurai droit à quoi ? Les vacances, les tickets restaurants, etc. Je veux dire, il y a un recul considérable dans l'agriculture. Enfin, moi, je connais, j'ai aussi pas mal d'amis agriculteurs. Je veux dire, ils ont énormément de mal à trouver de la main-d'œuvre, et de la main-d'œuvre peu qualifiée. Si vous voulez ramasser des pommes de terre, pardon de prendre cette image bête, mais ça n'exige aucune qualification. Or, les gens n'ont pas envie de le faire. Et d'ailleurs, enfin, c'est les mêmes gens souvent qui se plaignent du taux d'immigrés en France, mais qui sont très contents que les immigrés soient là pour faire ce genre de travaux sans qualification. Donc, il y a une sorte de contradiction. Et je pense qu'on a imprimé profondément dans l'esprit des Français, et c'est, je ne sais pas comment il faudra faire pour le sortir, l'idée que le travail, c'est fatigant. Non, ce n'est pas que fatigant.
Je ne serais pas aussi catégorique, pardon, hein, d'abord, parce qu'effectivement, plus de 100 000 emplois qui ne sont pas pourvus en France. Il enfin, y a un nombre assez important d'emplois qui sont non pourvus, notamment dans ces secteurs comme la restauration. Mmh. Et alors, c'est une question, vous parliez des artisans, c'est aussi une question de formation, c'est-à-dire qu'il y a une inadéquation entre les formations, les études supérieures, oui, et le marché du travail, ça c'est une chose. Et il y a aussi le fait que, oui, aujourd'hui, les gens ne veulent plus travailler avec n'importe quelle chaleur et n'importe quelle amplitude horaire. On l'a vu notamment dans la restauration, à la sortie du Covid. Tout d'un coup, les restaurateurs n'ont plus trouvé de gens pour travailler dans leur restaurant. Mais pourquoi ? Parce que ça faisait longtemps que les salaires n'avaient pas été augmentés dans cette branche professionnelle-là. Ils ont des amplitudes horaires qui sont extrêmement importantes. On travaille le soir, on travaille le matin, on travaille le week-end. Et il y a des négociations qui ont été entamées entre syndicats et patronat, notamment dans la restauration, pour que les salaires puissent être augmentés enfin. Ça faisait des années qu'on attendait qu'ils soient augmentés. Oui, alors, en fait, ce que vous dites là, moi, ça me frappe. Moi, j'ai des enfants qui ont une vingtaine d'années, qui sont en études supérieures. C'est pas tellement que les jeunes ne veulent pas travailler comme nous, on a pu travailler. Moi, j'ai une fille qui est en études de médecine. Les médecins, aujourd'hui, ont du mal à retrouver des remplaçants, notamment en province. On parle de déserts médicaux, parce qu'effectivement, eux, ils bossaient de 7h du matin à 22h, quasiment tous les jours. Les gens avaient leur portable. Donc, on appelait le médecin le samedi et le dimanche. Mais c'est pas une vie non plus. Hein. Personne ne peut souhaiter... Enfin, moi, personnellement, j'ai pas envie de bosser de... Je pense être suffisamment travailleuse. Je n'ai pas envie de bosser de 7h du matin jusqu'à 23h tous les jours. J'ai aussi envie d'avoir une vie privée et m'occuper de mes enfants. C'est légitime de vouloir du temps à soi et de ne pas travailler comme un âne. Voilà. C'est pour ça que ce soit une préoccupation des générations montantes, ce respect, cet équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée, je trouve ça assez salutaire, parce qu'ils ont vu leurs parents et leurs grands-parents trimer comme des brutes sans nécessairement et être jetés de boîte après 30 ou 40 ans de carrière sans considération aucune. C'est ça aussi qu'ils ont observé. Hein.
J'entends les deux arguments, mais je suis plutôt du côté des gens. Je pense qu'il y a une révolution dans l'attitude vis-à-vis du travail, surtout depuis le Covid. J'ai un ami, c'est notre domaine, c'est pas l'agriculture, mais j'ai un ami qui est financé à Paris ou dans le conseil, qui m'explique que depuis le Covid, lorsqu'il y a les entretiens d'embauche, la première question qu'il pose les candidats, c'est, ou les deux premières questions, c'est quelle est l'empreinte carbone de votre cabinet, et puis combien de jours de présentiel par semaine.
Donc, est-ce que c'est grave? Moi, j'aime bien la question, votre empreinte carbone, je trouve ça extraordinaire.
Oui, je suis d'accord, mais je veux dire qu'on est moins assoiffé de trouver un poste de travail. Et de même, moi, j'ai un fils qui a 26 ans aussi, et j'entends lui et sa copine, il y a une sorte d'attitude anti-travail, mais est-ce qu'on est vraiment obligé de travailler? Pourquoi on doit travailler? Est-ce que c'est une valeur en soi? Ils étaient portés sur les candidats socialistes il y a quelques années.
Je trouve ça intéressant comme questionnement. Oui. Parce que Jean, très justement, parlait de la valeur centrale du travail. Le travail aussi, la vision chrétienne du travail est une place centrale. Le travail est là pour permettre à l'homme de s'épanouir aussi. Ça, c'est important. Oui. Mais c'est intéressant d'interroger la valeur travail. Moi, je trouve ça...
Je suis d'accord.
Plutôt,
c'est intéressant. Mais finalement, si on se pose trop les questions, on agit un peu moins.
Oui, enfin, ils devront travailler comme nous, ils devront se nourrir aussi comme nous. Ils sont pas.
Et puis, enfin, les générations, nos parents, enfin, moi, je suis un peu plus âgé que vous, mais enfin, je veux dire, les gens ont travaillé comme des bottes, oui et non. Enfin, la génération des 30 Glorieuses a fait aussi que.
Ah oui.
Non, mais a travaillé.
Mais justement,
beaucoup.
Elle a découvert les congés payés, elle a découvert tout ça. Hein.
Oui, tout à fait. Mais enfin, elle a travaillé beaucoup, mais elle a aussi fait un pays prospère. Enfin,
bien, je veux sûr, dire, bien sûr.
Enfin, s'il y a cette nostalgie, enfin, on a parlé des années Pompidou, on en a parlé récemment, mais c'est ça.
Mais
c'est
est-ce qu'il n'y a pas un genre de balancier entre nous, ces générations qui ont beaucoup travaillé, et aujourd'hui, ces jeunes qui veulent moins travailler? Je sais pas, je me dis que c'est.
Moi,
comme
j'aimerais
ça.
Bien que le balancier revienne de l'autre sens.
Moi, j'aimerais bien qu'il soit au milieu, en fait. Souvent, j'aimerais bien qu'il soit au milieu.
Allez, on passe à peut-être le dernier thème de ce grand débat. Notre-Dame qui a retrouvé la semaine dernière sa croix de chevet tombée lors de l'incendie du 15 avril 2019. La croix de 12 mètres de haut restaurée a été réinstallée donc le 24 mai sur les hauteurs de Notre-Dame de Paris après avoir été bénie par le recteur de la cathédrale. Voilà qui est fort en symbole. Priscilla de Selve.
Oh bah si vous me redonnez la parole, je vais. Alors, c'est très particulier pour moi, Notre-Dame, parce que moi, quand elle a brûlé, je travaillais au diocèse de Paris, je m'occupais de leur journal Paris Notre-Dame. Donc, en fait, moi, je suis sortie de mes bureaux qui sont au pied de Notre-Dame et je l'ai vue brûler. Je suis parisienne depuis un nombre d'années assez important. J'étais pas spécialement fan. Enfin, j'avais pas mis souvent les pieds à Notre-Dame. Là, il se trouvait que depuis 5 ans, je travaillais à son chevet tous les jours. Je voyais ses vitraux, sa façade qui était assez crasseuse. Je voyais tous les travaux qui étaient à faire, ses pierres qui tombaient régulièrement. Notre-Dame était dans un état absolument épouvantable. Et puis, elle était en travaux et elle a brûlé. Moi, cette résurrection de cette vieille dame qui marque le visage de Paris, elle m'épate, elle m'émeut, elle est magnifique. Et ce que je trouve particulièrement remarquable, c'est l'amour, l'émulation, la communauté d'énergie, de projet que cette cathédrale a fédéré. C'est que ceux qui connaissent Notre-Dame et qui connaissent, vous seriez épatés par les gens qui bossent, les gens qui travaillent, l'amour qu'ils ont pour cette cathédrale, l'architecte en chef des monuments historiques qui travaille sur cette cathédrale depuis le début, qui était là pour les travaux avant qu'elle ne brûle, il s'est fait tatouer la flèche de Notre-Dame sur le bras. Non, mais c'est extraordinaire. Et quand vous écoutez les ouvriers, les tailleurs de pierre qui vous parlent de cette dame, c'est de l'amour qu'on entend dans leurs mots. C'est de l'amour. C'est que les gens, ceux qui travaillent, ceux qui la côtoient tous les jours, l'aiment. Et elle est aujourd'hui, elle est magnifique. Moi, je vois cette flèche, je suis passée à côté il n'y a pas longtemps, je vois cette flèche qui émerge des échafaudages, ça m'émeut profondément. Je l'ai vue, cette flèche, s'effondrer dans ce trou-là, bouffé par les flammes. Cette croix, tout est extraordinaire dans cette histoire, parce que cette croix, elle était tombée, on avait pu la récupérer. C'est comme le coq qui est aujourd'hui au niveau de la flèche. Philippe Neuve, il avait récupéré le coq. Hein. Le vieux, c'est plus le même. Ils ont changé le coq, mais... Ouais. Voilà, moi, c'est tout cet amour qui autour de cette dame très âgée qu'on devrait avoir pour ceux qui souffrent aujourd'hui, qui sont en fin de vie, en phase terminale. Tout cet amour que génèrent des gens malades devrait se perpétuer. Il y a des choses, il y a des monuments, il y a des personnes qui génèrent un amour énorme et c'est ça qu'on devrait mettre à l'œuvre tous les jours, en fait.
Jean Sévillia.
Écoutez, personnellement, la situation politique internationale me désespère, la situation politique française me désespère. Alors j'ai une seule note d'espoir depuis quelques mois, c'est évidemment la résurrection de Notre-Dame. Alors c'est vrai que quand au moment de l'incendie, on a tous un peu ricané quand le président de la République a annoncé on va la reconstruire en 4 ans. Et là, on est bluffé parce que effectivement, ça s'est fait. Voilà. Ça, c'est vrai qu'on a tous eu tort de ricaner. voilà. Donc c'est un émerveillement que je partage évidemment. Devant ce condensé d'excellence française, enfin c'est très frappant quand on voit tous ces il y a de multiples reportages qu'on a tous regardés, évidemment quand on voit ces ouvriers qui sont tatoués de partout avec des boucles d'oreilles, enfin je veux dire c'est la France d'en bas, mais la France d'en bas qui est en train de travailler à un monument qui nous mène vers le haut, quoi.
C'est des spécialistes, hein, ils sont extrêmement pointus dans leur domaine,
bien
aussi,
évidemment,
hein.
Mais j'ai parlé d'excellence, tout à fait. Et puis il y a une symbolique très très forte, évidemment nous chrétien, catholique, ça nous touche très fort parce que c'est la cathédrale du diocèse, parce que c'est une plus vieille, plus ancienne cathédrale de France, parce qu'elle est liée à notre histoire nationale, parce que en raison des événements qui s'y sont déroulés, mais parce que en fait ça a révélé, enfin l'incendie avait révélé quelque chose de très fort. On est à la fois un pays profondément déchristianisé et en même temps il y a une forme de catholicisme ou de christianisme zombie, pour reprendre l'expression qu'avait employé Todd, je crois, Olivier Todd, pas Olivier, je confonds les deux.
Emmanuel
pardon, je confonds le père et le fils. Qui s'est manifesté là. L'émotion de l'incendie de Notre-Dame a traversé, elle est bien au-delà des milieux chrétiens. Et en fait, c'est parce qu'en fait, les gens sentaient qu'il y avait, c'était pas simplement un édifice, c'est parce qu'ils sentaient qu'il y avait du sacré derrière, qu'il y avait notre histoire derrière. Donc, voilà. Et donc, on sent les mêmes attentions vers la résurrection de Notre-Dame. Voilà. Ce qu'on espère, c'est que ce sera les cérémonies qui vont commencer autour du 8 décembre. On espère qu'elles vont être dignes, que chacun sera resté à sa place, que le chef de l'État sera resté à la sienne. C'est quand même, de par la loi et de par l'histoire, c'est un édifice chrétien qui est d'abord un édifice de culte, dévoué et donné au culte catholique, dédié au culte catholique. Et donc, c'est d'abord la résurrection d'une cathédrale, d'un lieu de culte qui est fondamental. Voilà. Pour moi, c'était un message d'espérance, cette renaissance, et dans ce paysage qui est actuel, le nôtre, qui je trouve très, très attristant, là, on a enfin un message d'espoir.
Steven Sampson.
Je suis d'accord, moi je ne suis pas allé sur le chantier, ça donne envie en fait, je vais me précipiter. C'est ouvert, les gens peuvent entrer
Non, il faut, c'est compliqué parce qu'en plus il y a tout un processus, il faut se doucher, se changer. Non, c'est pas, on ne peut pas rentrer comme ça sur le chantier, mais déjà rien qu'aller voir, se mettre au pied.
Oui. Mais non, c'est quand je suis à Paris depuis tant de temps, mais même avant, j'adorais Notre-Dame, c'est vraiment le symbole de la vie, là. Magnifique. Donc, je me réjouis de cette renaissance, résurrection.
Ouais, la cathédrale qui a maintenant retrouvé l'intégralité de ses voûtes. C'est une étape déterminante dans le chantier de reconstruction. Est-ce que c'est la plus symbolique, Priscilla de Sèvres ?
La croix ?
Ouais.
Déjà que la flèche, c'était très symbolique.
La flèche. Non, mais il y a eu des tas d'étapes. Moi, Notre-Dame, c'est un miracle permanent. En fait, oui, elle a brûlé, mais il y a des choses, ceux qui ont pu pénétrer ou ceux qui ont pu, dans les premières heures après l'incendie, ont été témoins de... Enfin, je parle du miracle, hein, je sais bien ce que ça veut dire, je connais le poids de ce mot. Je me rappelle notamment de la Vierge qui est au pied de l'autel, vous savez, cette Vierge, je ne sais plus quel est son nom, mais elle n'a pas été touchée. Quand la flèche est effondrée au milieu, l'autel de Jean Touré a été touché, abîmé. D'ailleurs, il est remplacé. Hein. Mais cette Vierge que tout le monde connaît avec ce visage, elle n'a pas été touchée. Elle est juste à côté de l'autel. Et il y avait juste, sur le pied de Jésus, un morceau de charbon qui venait du toit. C'est-à-dire que c'était comme un hommage au Christ. On avait posé ce morceau de charbon. Et ceux qui connaissent aussi Notre-Dame voient très bien cette croix qui a été mise en place par Lustiger au fond du chevet. Et quand on entrait Notre-Dame, les photos qu'on a vues, qu'on a tous vues, moi je ne suis pas rentrée à Notre-Dame après l'incendie, mais c'était cette croix lumineuse qui brillait au milieu de cette ténèbre noire là. C'est ça Notre-Dame. C'est cette lumière dans les ténèbres et... d'accord avec Jean pour le coup sur tout me désespère dans ce monde sauf l'homme quand il est au mieux de ce qu'il est et ce qu'il doit être.
Et on est un peu moins de 200 jours maintenant de la réouverture prévue le 8 décembre 2024. Je sens que les uns les autres vous comptez les jours là.
Oui, voilà, on espère aussi. Enfin bon, je ne vais pas gâcher par de la polémique, mais voilà, mais j'espère que le mobilier va être à la hauteur de, quoi, parce que ce qu'on a vu en schéma, le mobilier liturgique me convainc pas complètement personnellement.
Si vous rappelez de ce qu'était Notre-Dame avant l'incendie, c'était un édifice extrêmement sombre, très sale, en mauvais état. Le mobilier n'était pas extraordinaire, à part...
Je parle du choix de l'hôtel, choix du tabernacle.
Jean-Marie Lustiger a mis en place l'hôtel de Jean Touré, la croix et tout ça, il a été très critiqué. Hein. Tout geste un peu moderne est forcément critiqué. Est-ce que...
Il faudra voir dans la durée,
Steven Sampson.
Il faut attendre de voir. Je suis un peu sceptique aussi, mais parfois je suis un peu... vieux con aussi. Donc.
Ça, c'est une question de goût aussi, ça, ça se discute toujours.
Oui, oui.
Pas de valeur intrinsèque.
Parce que sur le mobilier, qu'est-ce qui vous... Jean Sévillia,
okay. Moi, je n'ai vu que des photos, tout ce qui a été donné à la presse. Hein. Donc, le choix du tabernacle, moi, m'a pas paru... Enfin, esthétiquement, je ne m'y retrouve pas. Mais enfin, bon, j'ai pas envie de gâcher la fête par des propos de... Je suis très souvent vieux con, alors j'ai pas envie... j'ai pas envie d'en rajouter sur ce plan-là.
Voilà. Vous l'avez vu, vous, le mobilier
comme Jean, j'ai vu les photos. Et je connais, enfin, je sais que par exemple sur la couronne du Christ, c'est Sylvain Dubuisson qui est un architecte que j'apprécie particulièrement qui s'occupe de cette châsse en particulier. J'ai vu les chaises, on verra bien. De toute façon, l'important c'est qu'elle soit là. C'est un miracle qu'elle soit là. Et il faut remercier aussi ceux qui l'ont sauvée, les pompiers notamment, mais pas que, et les gens qui travaillent aujourd'hui sur le chantier, les architectes, toute cette mobilisation humaine autour de cette vieille dame, qui n'est pas une vieille conne, mais qui est une vieille dame.
Oui, mais enfin, elle est très jeune en même temps. Elle est très jeune. Ce qui est très étonnant, vous savez que ça va être on passe d'une cathédrale qui était en mauvais état à un chef-d'œuvre de technologie, quoi. Le système anti-incendie, etc. Enfin, je veux dire, c'est extraordinaire, quoi.
Voilà, rendez-vous le 8 décembre 2024 pour cette réouverture tant attendue. Merci à tous les trois pour avoir participé à ce grand débat. Priscilla de Selve, rédactrice en chef à l'hebdomadaire La Vie, Stephen Sampson, écrivain américain d'expression française, et Jean Sévillia, journaliste au Figaro. Merci donc pour ce grand débat.